Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission consacrée au pastis draft avec aujourd'hui, comme chaque jour et comme chaque émission consacrée aux besoins de vos franchises NFL préférées, une équipe passée au peigne fin. Aujourd'hui, on s'intéresse aux Green Bay Packers, initialement 28e choix de la draft, mais qui du coup vont avoir l'opportunité d'avoir deux premiers tours du fait du trade de Davante Adams du côté des Raiders. Et qui mieux pour en parler qu'Alexandre Locke qui est en ma compagnie. Salut Alex.
Salut Greg, bonjour à tous.
Alors, j'ai replanté donc le décor du côté de Green Bay parce que on a une équipe qui reste malgré tout assez complète et pas mal de choix de draft qu'on a réussi à emmagasiner, notamment via ce trade avec les Las Vegas Raiders. On a également des choix compensatoires. Alors, globalement, au niveau de la draft cette année, on aura deux premiers tours, deux deuxièmes tours, un troisième tour, deux quatrièmes tours, un cinquième tour et trois septièmes tours du côté de Green Bay. Donc, il va y avoir du Jordan Love en pagaille. C'est pour ceux qui l'aient bien entendu. Juste lui rappeler rapidement, avant de te donner la parole, Alex, sur les priorités des Packers. Donc, les renforts notables au cours de cette intersaison. Alors, je regarde, il n'y en a pas eu énormément non plus. Jaren Reed, peut-être, voilà, sur la ligne défensive, bien entendu. Je ne vais pas l'oublier non plus. Il ne faut peut-être pas exagérer. Après voilà, on a réussi à conserver Devondre Campbell également sur le poste de linebacker, quelques joueurs importants qui sont partis malgré tout, je pense à Zadarius Smith notamment sur le pass rusher, Davante Adams dont j'ai parlé tout à l'heure bien entendu. Alors on a la situation à l'heure où on enregistre d'Alan Lazard qui est agent libre restrictif, donc qui est là mais qui n'a pas officiellement signé son tender comme on dit.
Alors ça, je sais plus s'il a signé sur tender. Par contre, c'est clair, ses déclarations laissent peu de place au doute. Il a déjà pris rendez-vous avec les fans pour aller à Londres et tout ça, donc il sera aux Packers, il n'y a pas de souci.
Très bien. Mais oui, voilà, c'est juste pour expliquer que globalement, il l'avait conservé, mais que bon, à l'heure où on enregistre, encore une fois, il n'y a rien d'officiel. Donc ses besoins du côté de Green Bay, Alex, dans une équipe qui, je le disais, a perdu quelques vétérans, blessés, hein, certains d'entre eux, mais en tout cas, a quand même malgré tout conservé une certaine ossature, où tu vois les besoins les plus prégnants, même s'il y a quand même quelques évidences.
Ben oui, justement, la plus grosse évidence, est-ce que ça ne serait pas le poste de quarterback? Voilà, est-ce que ça ne serait pas le plus gros besoin? On peut se poser la question. Non, évidemment, le besoin le plus criant, c'était déjà le cas avant le trade de Davante Adams aux Raiders, c'est le poste de receveur. Ça a coûté, j'en ai l'intime conviction, la place au Super Bowl, ce manque de receveur numéro 2 la saison dernière. Et ben maintenant, il manque en plus un receveur numéro 1. Donc voilà, ils ne vont pas avoir le choix que de largement considérer cette position. Très très tôt, et on va certainement en parler. Après, des besoins, il peut y en avoir un peu partout, malgré tout, même si c'est une équipe qui reste sur deux finales de conf. La ligne défensive, alors l'ajout de Jaren Reed, c'est pas mal du tout, surtout s'il retrouve son niveau de Seattle. Ça peut être vraiment très intéressant, mais je pense quand même que la ligne défensive, c'est à considérer, parce que ça reste assez pauvre derrière Kenny Clark. Le poste de safety, pour moi, est une priorité. Alors, peut-être pas nécessairement une priorité absolue, mais une priorité quand même, parce que les deux safety, donc Savage et Amos, sont en fin de contrat à la fin de la saison. Et Savage sort pas d'une saison qu'on peut qualifier de brillante. Après, la ligne offensive, la coupe de Turner laisse un vide dans ce joueur polyvalent capable de dépanner un peu partout. Mais là aussi, bon, on a drafté pas mal... les Packers sont draftés pas mal ces dernières saisons. Donc, il y a quand même de quoi faire. Donc, ce n'est pas nécessairement le besoin le numéro un.
Très bien. À voir en effet, parce que c'est vrai qu'a priori, en plus, Elton Jenkins est censé se décaler sur le côté gauche, donc sur le côté droit,
Droit,
pardon, en
ouais.
position de tackle. Donc
Ouais,
c'est vrai
ça
que sur
c'est oui,
l'intérieur,
normalement.
ça va peut-être faire un peu de juste, en tout cas assez jeune, d'avoir Enyuman et Ronyan alors en enregistre.
Et Myers au centre, ouais, ça ferait trois joueurs très très jeunes, effectivement.
Donc du coup, forcément, tu as le lead, Alex, pour nous parler de ce
Je te
22e
remercie.
choix dans l'escarcelle des Packers. Qu'est-ce qu'on priorise dans tous ces besoins, ou en tout cas dans les quelques besoins que tu as énumérés il y a quelques secondes, pour la franchise du fromage?
Ouais, et ben je vais pas me dédire, évidemment, je vais partir sur le poste de receveur. Alors, je pense que le profil qui collerait le plus aux Packers par rapport à Matt LaFleur, par rapport à tout un historique, ça serait Chris Olave de Ohio State. Maintenant, je le vois partir un peu plus haut. On a déjà parlé dans d'autres émissions. Il me semble qu'on l'avait un petit peu annoncé aux Saints. Donc, je suis pas certain qu'en 22, ça soit disponible. Donc, moi, je partirais sur Drake London, le receveur de USC, receveur très grand. Très productif pendant ses deux tiers de saison avant qu'il se blesse, parce qu'il était sur une moyenne de yards assez hallucinante. Il faisait quasiment 150 yards à chaque match. Excellent sur les ballons contestés. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui manque. Il a vraiment ce gabarit, ce style à la Mike Evans un petit peu. Alors après, c'est pas forcément le joueur qui se détache le mieux qui se sépare le mieux de son vis-à-vis, mais je pense que c'est vraiment le profil d'un receveur numéro un. La chance, entre guillemets, du board des Packers, du front office des Packers, ça serait que sa blessure à la cheville pourrait le faire descendre, parce que sinon, c'était un top 15, je pense, cette année, sans aucune contestation possible. Mais cette incertitude, ils ont même demandé il a demandé, son agent a demandé à USC de décaler son pro day pour qu'il puisse avoir encore quelques jours pour se remettre, pour pouvoir se mettre en avant pour son pro day. Donc, c'est pas spécialement bon signe sur sa condition physique, et ça peut le faire descendre. Maintenant, il s'est pas fait les genoux non plus, donc je pense que ça reste un joueur dont l'avenir sportif n'est pas du tout remis en question. Et voilà, moi, c'est vraiment un joueur que j'apprécie et que j'aimerais voir à Green Bay.
Oui, j'ai pas énormément d'autres alternatives. Je pense qu'il y en a, mais je vais pas faire doublon avec éventuellement le 28e choix que je vais donner tout à l'heure. Après, si on reste sur la politique d'un receveur, j'étais assez intrigué par la possibilité de Jameson Williams dans ce côté un peu. T'y crois pas du tout?
Non, j'aime le joueur et le profil. Si tu veux, le problème, c'est qu'il s'est blessé très tard dans la saison et qu'il sera pas de retour avant fin octobre, début novembre. Il sera pas en forme
Ah,
avant
c'est
les
vrai, c'est vrai,
playoffs.
ça prend en compte, ouais.
Et quand tu donnes 50 millions à ton quarterback pour les deux prochaines saisons, il faut gagner. Il faut gagner, c'est obligatoire. Et donc, si
Alors,
tu mets Williams, t'as pas de receveur numéro un tout de suite.
si on reste dans cette logique-là, parce que ce que j'aimais bien avec Williams, c'était ce côté à pouvoir performer dans le domaine vertical dans une équipe qui peut être amenée à courir beaucoup.
Ouais.
C'est le profil que peut présenter Green Bay. Si on reste dans cette logique-là, et d'ailleurs je l'ai vu dans pas mal de mock drafts, Jahan Dotson, c'est aussi une possibilité, le profil de Penn State, qui a démontré de bonnes mains, qui a quand même malgré tout un profil un peu receveur de réception, même s'il est plus petit que Davante Adams, clairement. Il a ce côté un peu receveur de réception qui peut être receveur de réception, receveur de possession, pardon, qui peut être intéressant pour les Packers et qui peut lui permettre d'être un receveur numéro 1. Après, reste à savoir si Dotson, c'est plus judicieux de prendre avec le 22 ou avec le 28. C'est peut-être là, en effet, où c'est peut-être plus un luxe d'aller chercher Dotson en 22. Voilà, si on brosse différentes possibilités sur le poste de receveur, parce qu'encore une fois, je te rejoins globalement sur cette possibilité-là. Ça peut être cette option-là. Après, oui, on a vu que London, éventuellement, c'était un produit. Tu le sais très bien que ce n'est pas mon joueur préféré.
Oui, non, mais après, j'entends, il y a d'autres
Mais d'un
profils.
point de vue profil, oui, on est d'accord que
Je suis pas
ça peut fitter.
certain que ça soit le profil, si tu veux, le plus nécessaire, dans la mesure où Alan Lazard est aussi grand et sait jouer les ballons contestés. Maintenant, voilà, moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut partir, parce qu'Alan Lazard, ça reste un receveur numéro 3, voire numéro 4, même si j'apprécie le joueur pour tout un tas de raisons. Il y a d'autres profils. Treylon Burks, par exemple, pourrait être beaucoup plus dans un moule, d'ailleurs plus complet, pouvant être un peu plus adamesque, si je peux dire, que pourrait l'être London. Mais bon, voilà, il faut faire un choix. Si je suis GM et que les deux sont disponibles, je prends London. Maintenant, si Burks est appelé, voilà, il n'y aura pas de cassage de micro ou de cassage d'ordinateur.
D'accord. On a compris que si c'est Jamison Williams, tu vas faire la gueule. Par contre.
Non, mais ça ne correspond pas. Voilà, ça correspond pas à ce qu'il faut. C'est comme un John Mechie un peu plus tard dans la draft. C'est pareil, ces joueurs, on ne sait pas dans quel état ils vont arriver en septembre.
Très bien. Le 28e choix. Alors, là aussi, c'est un joueur qui n'a pas forcément misé beaucoup sur son process draft pour se mettre en avant. Maintenant, pour moi, c'est plus un top 10 ou un top 15, mais c'est pas non plus un deuxième ou un troisième tour, très clairement. En fonction des joueurs qui seront encore disponibles, je repars sur ta logique de la ligne défensive. Je pense que DeMarvin Leal peut être un profil assez intéressant pour Green Bay. Joueur extrêmement polyvalent, presque né pour jouer sur une 34, performant sur le run stop, capable également de pénétrer de manière assez notable sur l'intérieur de, enfin en tout cas dans la poche. Donc je pense qu'en plus pour apprendre dans un premier temps et s'intégrer rapidement dans la rotation avec peut-être Reed et Lowry, je pense que ça peut être quelque chose d'assez intéressant sur cette ligne défensive. Donc voilà, c'est un joueur qui est assez détonnant dans le sens où il est physique malgré un profil relativement longiligne, on va pas exagérer, mais c'est vrai que c'est un physique de defensive end, c'est un impact de defensive tackle, c'est un profil assez homogène qui encore une fois recule un petit peu parce qu'il y a d'autres profils qui grimpent beaucoup plus sur la D-line, notamment les deux de Georgia, Jordan Davis et Devante Wyatt. Mais je ne le vois pas autant à la rue que ce que je peux en voir. Il y a un petit peu le phénomène Kevin Thibodeau où du coup, c'est un peu moins glamour, donc on le fait descendre dans les boards. Mais je pense que si Green Bay récupère au premier tour, il y a moyen de renforcer sensiblement, de rendre un peu plus intimidante encore, un peu plus intimidant, pardon, encore le front seven.
Je te rejoins à 100%. Alors, ça serait vraiment le scénario idéal pour les Packers, je pense. Moi non plus, je comprends pas vraiment pourquoi il est descendu. Enfin, on le voit en fin de deuxième tour. Ça me paraît quand même assez hallucinant. Je peux entendre effectivement qu'un Devante Wyatt a une courbe inverse et a pris sa place dans le top 15, dans le top 20. Maintenant, voilà, DeMarvin Leal aux Packers. Effectivement, ça fitterait parfaitement avec le système. Le mettre à côté d'un joueur du sérieux, de Kenny Clark, ça serait vraiment, vraiment un super ajout. Si je devais donner une alternative sur ce 28e choix, bah, je resterais sur receveur parce que c'est un scénario qu'on ne peut pas du tout écarter, la possibilité de prendre deux receveurs avec les deux premiers choix. Donc bah voilà, tu as cité Dodson tout à l'heure, c'est un joueur, si tu prends un grand receveur comme London en 22, c'est pas du tout déconnant de prendre un Dodson en 28. Donc voilà, c'est une possibilité à ne pas écarter, cette redondance des receveurs au premier tour.
Tout à fait. Ton sleeper, du coup, lequel est-il ?
Alors, en sleeper, je suis parti sur un tight end, dans la mesure où bah, on a Mercedes Lewis qui a été le tight end presque numéro un la saison dernière à cause de la blessure de Tonyan, mais qui n'est pas jeune, parce qu'il a mon âge, donc il est plutôt vers la fin de carrière.
Oui, dis-moi ton âge, sans me dire ton âge.
Je suis en fin de carrière. Voilà, donc on a Mercedes Lewis, on a un Josia Deguara qui n'a pas totalement justifié pour l'instant son statut de troisième tour et qui reste un profil un peu hybride aussi, fullback. Et Tony... pas à 100% au mois de septembre. Donc, pour toutes ces raisons, tout ça pour dire que j'aimerais bien un profil à la Tonyan, c'est-à-dire un tight end un peu receveur. Et je suis parti sur Daniel Bellinger de San Diego State, qui, je pense, avec les deux quatrièmes tours, ou même le cinquième tour, mais je pense peut-être le deuxième, quatrième tour, pourrait être assez logique. Ça reste un besoin, justement, pour tout ce que je viens d'évoquer, les statuts des différents joueurs. Et malgré une productivité relative, on ne va pas se mentir, il n'a pas fait des statistiques ahurissantes à San Diego State, ça reste un profil bon à la réception, capable vraiment d'être le nouveau Tonyan, si tant est que l'avenir de Tonyan, l'avenir long terme, ne soit pas à Green Bay. Mais voilà, je pense que c'est un poste où il va falloir se renforcer. Et fin de quatrième, ça, j'aime bien ce joueur-là et ce profil-là.
Très bien. Donc du coup, ça a coupé un petit peu tout à l'heure, il me semble. Mais voilà, tu t'expliquais bien que Robert Tonyan n'était pas disponible en septembre, si je ne trahis pas tes
oui, propos. Désolé pour cette connexion. Oui, c'est ça. Bah, ça va être septembre, je pense, oui. Septembre-octobre. Même si, paraît-il, il est en avance sur son retour. Mais bon, avec ces blessures-là, on ne sait jamais.
C'est tout ce qu'on lui souhaite à Bob. En tout cas, mon sleeper, bah écoute, je vais partir sur du Rostover. On va penser que c'est une émission à thème, mais voilà, si on veut blinder, en effet, je te rejoins totalement dans le sens où je pense qu'il y aura deux receveurs draftés, encore plus avec le nombre de choix de draft que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que deux, voire trois, hein, on a déjà vu les Packers multiplier, même si ce n'était pas encore Gutkunst, le general manager. On a souvent vu des drafts avec beaucoup de positions sélectionnées deux, voire trois fois. Donc, ça peut ne pas faire exception à la règle, à cette QV 2022. Il y a un profil qui grimpe également et qui, je pense, peut être disponible aux alentours du quatrième tour, c'est celui de Danny Gray, receveur d'SMU, sur la même logique que j'ai prise tout à l'heure, dans le sens où ça peut en tout cas être un joueur assez habile d'un point de vue tracé, mais aussi extrêmement dangereux d'un point de vue vertical, pour vraiment optimiser le travail qui sera fait par le jeu au sol. Et je pense qu'il y a cette explosivité assez notable du côté de Danny Gray. Hein. Je parlais de Perrion Winfrey hier, qui était un prospect assez intéressant arrivé de junior college. C'est un peu la même trajectoire que Danny Gray, qui a malheureusement eu un peu d'inconstance, on dira, dans son jeu. On a vu sur certaines rencontres que dans une conférence universitaire qui n'était pas forcément la plus mauvaise, des fois on avait cette sensation que c'était un adulte qui joue au milieu d'enfants. Donc on voit qu'il y a un gros potentiel. Il y a un développement assez notable parce qu'encore une fois, il y a, on va dire, une émergence assez tardive au plus haut niveau universitaire, mais c'est un joueur qui, encore une fois, peut bénéficier d'une attaque comme celle de Green Bay, surtout d'un receveur comme Aaron Rodgers, pour éventuellement réussir à trouver les bons espaces et à se développer au fur et à mesure pour fournir des menaces supplémentaires dans les airs pour les Packers. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur les Packers. Je te remercie Alex d'avoir été en ma compagnie.
Merci à toi.
Le podcast Draft revient donc dès demain pour s'intéresser, si je ne me trompe pas, aux San Francisco 49ers. On y est presque, hein, moins d'une semaine avant la grande échéance de cette Draft NFL 2022. Restez donc bien connectés sur les antennes de TDA. Toute l'actualité de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. Salut à tous et très bonne journée. Ciao.